Salut à tous, bienvenue sur le Processus Talk. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la compétition. C'est un sujet qui nous a été suggéré, donc on va le traiter pour faire plaisir à nos auditeurs. Et puis, c'est aussi un sujet qui nous fait plaisir de débattre dessus. Est-ce que la compétition est une obligation? Dois-tu faire de la compétition? Pourquoi faire de la compétition?
Ouais, notre vision, quoi.
Voilà, notre vision de la compétition. On va parler de tout ça. Juste avant de commencer, on va définir le terme compétition. Enfin, notre vision du terme compétition pour que ce soit bien clair de ce dont on parle aujourd'hui.
Ok.
Ok. Comment toi tu définis la compétition?
C'est une comparaison.
Simple, ok.
Simple.
Est-ce que c'est une nécessité?
Non, le principe c'est de se confronter à quelqu'un d'autre en fait qui fait la même chose que toi.
Ok. Donc pour toi, comment tu définis la compétition? Se comparer à quelqu'un.
Se comparer pour s'évaluer, voilà, c'est
d'accord,
ça.
D'accord, se comparer pour évaluer. Ok, bah tu vois par exemple, parce que pour moi, il y a se comparer pour évaluer, mais si on veut utiliser le terme compétition d'un point de vue un peu plus philosophique, on pourrait aussi dire que tu peux te mettre en compétition avec toi-même, sans forcément te comparer aux autres, mais te comparer à toi-même.
Alors, ouais, ok. Voilà. Okay, okay.
Avoir une compétition, perso, genre je veux courir 10 km, je ne m'inscris pas à une compétition à proprement parler, je le fais pour moi-même, c'est ma compète.
Ouais, mais quelque part... Il y a une rencontre avec d'autres personnes, donc quelque part tu te compares aux autres.
Et je veux dire, non, tu le fais pour toi, mais solo.
Et je veux dire, là, tu prends un sport. En fait, même ça, ça marche pas parce que. Alors, si tu pars tout seul et que tu vas faire ton 10 kills, ok. Le problème, c'est que si c'est une course qui est organisée, il va y avoir d'autres gens. Et à la fin, il y a un classement des chronos. Donc au final, tu le fais. Oui, tu te compares à toi-même, mais tu te compares aussi aux autres.
Mais si tu le fais sans t'inscrire à une compétition.
Alors oui. Non, mais ça, dans tous les cas, ça reste une comparaison.
Et, moi, je trouve ça intéressant de parler de comparaison.
Et ensuite, il y a des sports où tu ne peux pas faire une compétition contre toi-même. Typiquement, tu ne fais pas une compétition de foot contre toi-même, tu vois.
C'est un peu chaud.
C'est forcément, tu te confrontes à contre une équipe, avec une équipe. Tu prends des sports de combat, tu te confrontes forcément
à quelqu'un.
Après, si le sac de sable est plus fort que toi, peut-être te remettre en question. Ou à contacter des vrais bons préparateurs physiques.
Ok, bon, c'est bien. Se comparer pour évaluer.
Excuse-moi,
je n'ai pas réagi à ta petite blague, mais j'étais vraiment parti là-dedans.
J'ai dit se comparer pour s'évaluer, soi-même.
Okay.
Et donc, du coup, oui, ça peut être se comparer aux autres ou se comparer à soi-même.
Okay.
Mais dans tous les cas, ça reste pour s'évaluer soi-même.
Est-ce que pour toi, et après je donnerai mon avis, c'est une nécessité de faire de la compétition? Est-ce que c'est obligatoire? Si c'est vraiment une nécessité? Oui, non. Les raisons pour lesquelles c'est positif ou négatif?
C'est super difficile comme question.
Ouais, c'est ton avis à toi. En vrai, c'est ton avis à toi. Tu peux avoir les deux avis.
Puis là, il me prend à chaud. Moi, je suis pas réfléchi à la question. Moi, je pense que c'est pas obligatoire. Mais par contre, je recommanderais quand même à tout le monde d'en faire à un moment donné. Parce que c'est un état des lieux, parce que c'est une évaluation. Puisque c'est une évaluation de soi, c'est quelque part, c'est aussi une introspection. C'est une introspection et ça force l'introspection aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu fais une introspection, tu penses que c'est ce que tu vaux, tu t'évalues et ensuite tu as le résultat de ce que tu vaux vraiment. Dans quelque chose de très précis, on a pris le 10 kills, bah voilà, tu t'évalues, tu sais ce que tu vaux sur un 10 km. Bam, c'est très précis. Mais après, c'est des résultats que tu peux un peu extrapoler au reste en fonction des efforts que tu as fait. Parce qu'il y a toujours des choses que tu peux réinvestir. On le dit toujours, c'est que pour toi et comme pour moi, le sport va au-delà du sport. C'est un peu la même chose quoi, sur l'évaluation et les résultats que tu vas faire. C'était quoi la question de base, juste pour que je revienne
dessus? Est-ce que c'était une nécessité? Mais non, mais tu as très bien répondu.
Mais là où je voulais aller aussi, c'est que je pense que ce n'est pas obligatoire. Je recommanderais quand même à n'importe qui de le faire.
Ouais.
Pourquoi? Parce que je pense que de toute façon, la vie, c'est une comparaison.
Ouais.
Que la vie, c'est une compétition. Je veux dire, si tu prends les espèces, à un moment, il y a bien eu une compétition entre les espèces et c'est la plus forte qui a mangé la plus faible, tu vois. Et bref, il y a eu cette évolution qui s'est faite comme ça par des facteurs naturels, mais aussi des facteurs de compétition entre les espèces. Et aujourd'hui, la compétition, elle est partout. Elle est dans le monde professionnel, elle est dans... Bref, dans tout.
Donc au final, on peut dire que non, ce n'est pas une obligation, mais par contre, c'est une belle recommandation.
Moi, je pense que, parce qu'au final, c'est une compétition au sens sportif, c'est quand même un cadre de comparaison qui est assez, assez safe, tu vois, assez ouais. protégé.
Ouais.
Parce que je veux dire, tu perds ton combat, tu perds ta course, oh, ok. Mais le jour où tu as une vraie compétition dans ta vie, ok, je vais prendre une compétition extrême dans ta vie,
ouais.
faut que tu tapes un sprint parce qu'il y a un mec au couteau qui te course. Là, si tu ne gagnes pas la compétition,
ouais,
si tu ne gagnes pas le sprint... Totalement. Bref, tu vois où je veux en venir. C'est un exemple un peu extrême, mais je pense que... Mais je pense que ça illustre bien là où je veux en venir. Et quelque part, le sport, c'est quand même assez, assez soft
okay.
quand tu y penses. Et quand il y a eu des guerres, des choses comme ça, ben, quelque part, c'était le plus fort qui gagne. Le plus fort dans le sens le aussi le plus malin, tout ça.
Vous connaissez avec le podcast sur la force.
et donc, ouais, voilà. Ouais, je pense que c'est important la compétition et la comparaison in fine.
Ben, moi...
Dis-nous tout, Jenny.
Non, mais moi, je trouve que c'est super bien dit ce que tu as dit. C'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Et ça dépend de tes objectifs personnels. De où est-ce que tu veux aller et quels sont tes objectifs. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui ont des objectifs personnels mais qui s'en foutent total et qui le font totalement pour eux-mêmes et qui du coup n'ont pas besoin de se comparer à d'autres personnes et qui ont besoin de se comparer à eux-mêmes, à le soi du passé. Et il y a d'autres personnes qui ont cette nécessité de s'inscrire à une compétition pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Tu vois, dans les sports d'endurance, on dit tout le temps « Ah, t'as fait cette course, t'as mis un dossard ou tu l'as fait juste pour toi ?» Parce que vraiment, il y a des gens qui, avec un dossard, se transcendent. C'est pas du tout les mêmes. Ils sortent des perfs beaucoup plus élevés. Ils veulent vraiment essayer de battre quelqu'un qu'ils avaient envie de battre. Donc voilà, c'est aussi avoir un aspect pour soi-même pendant la compétition envers les autres. Et ça peut te permettre de vraiment aller chercher le maximum de tes capacités.
Mais parce que quelque part, la compétition fait un peu ressortir, tu sais, cet instinct animal que tu as en toi.
Oui.
Tu sais, c'est que si tu as couru un ultra et qu'à la fin, tu as un ours qui te court après, je peux te dire que tu as beau être éclaté parce que tu as couru. C'est combien un ultra, par exemple ?
C'est plus de 110 bornes.
Bref, bah, tu as couru plus de 100 bornes, tu es censé être éclaté, bah, je peux te dire que tu vas quand même courir le sprint le plus rapide de ta vie pour sauver ta peau. Et tu vois, quelque part, tant que tu ne te confrontes pas, tu ne vas jamais exprimer ce que tu vaux vraiment. Si tu fais un sprint, ok, je m'entraîne à faire du sprint. Moi-même, je m'entraîne à faire du sprint. Mais je sais que, quelque part, je ne suis jamais à ma vraie vitesse de sprint tant que je ne suis pas en train de faire un sprint contre d'autres personnes. Et bien, en fait, c'est valable dans tout le reste. Et dire qu'on ne se compare pas, je pense que c'est faux parce que dans tous les cas, il y a de la comparaison. Je veux dire, ok, tu fais du bodybuilding, tu fais de la muscu juste pour te plaire à toi-même. Je ne le fais pas pour m'afficher, je ne le fais pas pour les autres. Ouais, ok, mais quelque part, sur les réseaux, tu suis des comptes de bodybuilding, de mecs qui font de la muscu, des coachs. Donc, il y a quand même bien un moment où tu te compares. Et que ce soit de manière consciente ou inconsciente, la comparaison, elle est partout dans la vie. Et en fait, c'est là où ça me dérange de dire que se comparer, c'est quelque chose de malsain.
Ouais.
Ce n'est pas la comparaison qui est malsaine, c'est la relation que tu as avec la comparaison.
Tu l'as déjà bien assez dit dans un ancien podcast.
Ouais, je l'ai déjà dit, et je continuerai de le redire parce que je pense que fondamentalement, c'est vrai. Et que si tu as un problème avec la comparaison, ben, il faut que tu traites ce problème parce que le problème, ce n'est pas la comparaison. Ce n'est pas la compétition, le problème.
Ok. C'est bien dit. Faites-le la compétition, ça peut vous apporter pas mal de choses. Et par rapport au podcast qu'on a fait la semaine dernière, qui est sorti la semaine dernière du coup, prenez note de vos compétitions aussi. Enfin, je trouve que c'est une bonne démonstration d'investissement parce que ça veut dire que si tu as une compétition, tu as préparé cette compétition et tu as des valeurs, tu as une évaluation qui est ta compétition. Alors évidemment, il faut encore une fois être contexte dépendant, prendre le contexte de la compétition, les conditions dans lesquelles tu étais. Enfin voilà, il faut prendre tout ça, mais ça te donne quelque chose de très objectif, j'ai mis tel temps pour parcourir telle distance, j'ai réussi à faire tel tonnage total sur la compétition.
Tu fais un état des lieux.
Voilà, tu fais un état des lieux.
Tu fais un état des lieux.
Et là, on va limite pouvoir dire que tu avais les meilleures conditions, parce qu'en général, on est dans de bonnes conditions dans des compétitions, et que toi, tu as mis aussi les chances de ton côté pour aller le plus loin possible dans cette compétition.
Ouais.
Moi, je voulais juste aborder du coup la mise, enfin mettre de son côté toutes les chances pour être le plus performant. Il faut passer par une planification adéquate.
Attends, on peut dire autre chose avant de partir sur la planification. C'est que, tu sais, par rapport aux compétitions et du coup à la comparaison, c'est que selon moi, il y a aussi beaucoup de valeurs qui vont être importantes et que tu vas retrouver dans le sport, mais du coup aussi dans le sport de compétition. Et on l'a déjà évoqué dans un autre podcast, mais à un moment, il était question d'enlever les médailles dans les compétitions pour les enfants. En gros, il n'y a pas de gagnant, pas de perdant. Et en fait, en faisant ça, tu détruis tout un système de valeurs, à savoir la récompense et puis surtout le travail, l'effort. Et en fait, si tu détruis ça, eh ben, moi, je pense que tout s'effondre. Et en fait, tu vas juste abaisser les standards encore plus.
À quoi bon s'entraîner ?
Et bah c'est ça. Et en fait, pour gagner une médaille dans une compétition, pour se dépasser, ça demande d'être exigeant. Et l'exigence, c'est de la bienveillance. La bienveillance sans exigence, c'est pas de la bienveillance. C'est du laxisme en fait. C'est du laxisme et tu tends à niveler ton niveau par le bas alors que ben, aujourd'hui c'est complètement la démarche dans laquelle est notre société, je trouve. Mais là ça rend peut-être un peu trop politique, mais bref, ce n'est que mon opinion. Et on gagnerait beaucoup à niveler le niveau vers le haut, et ça veut dire mettre les moyens derrière pour que les gens puissent être meilleur, quoi.
Exemple ultra concret, nos testing articulaires. Ouais. À chaque fois, dites-vous, on a mis des standards pour standardiser un peu le testing. On vous en a déjà beaucoup parlé dans l'épisode précédent.
C'est... l'épisode président.
Alors.
Ah, parce qu'en fait, c'était un indice, mais dans le prochain épisode, on va recevoir notre président.
Voilà. Du coup, le testing articulaire, on a mis des standards. On s'éloigne un peu de la compétition, mais c'est pour parler de niveler le niveau par le haut ou par le bas.
Et on s'éloigne pas, parce qu'en soi, en compétition, il y a des standards.
Oui, il y a des standards. Nous, on a mis des standards à chaque fois qu'on se regardait, quand on hésitait entre deux chiffres, on a toujours mis le chiffre le plus haut. Plutôt tant de degrés ou tant de degrés sur cette amplitude, on a tout le temps mis le chiffre le plus haut pour se dire, au moins, on le pousse à aller travailler sur cette fonction-là parce qu'elle est à la limite. Si elle a le chiffre d'en bas, ça veut dire qu'elle est à la limite. Donc, il faut qu'on mette plus pour qu'elle aille chercher ce plus.
Parce qu'on est exigeant, et on est exigeant parce qu'on est bienveillant.
Voilà. En fait, c'est de la bienveillance. Tu l'as bien dit. Si on te met le chiffre d'en dessous et que nous, on met le standard au-dessus, c'est pour qu'en fait, on soit bienveillant avec toi. Parce que si on met « Ouais, allez, c'est à peu près juste », toi, tu vas te dire dans ta tête que c'est juste. Tu vas pas dire « C'est à peu près juste », tu vas dire « C'est juste » et tu vas pas avoir envie de bosser sur cette articulation ou cette fonction.
Et puis derrière, en fait, on te ment parce qu'on t'envoie au casse-pipe, sur le terrain, dans ta course, ce que tu veux, alors qu'en fait, t'as pas ce qu'il faut pour. Alors que si t'as plus, on est sûr que t'es une machine de guerre.
Voilà, donc en fait, j'ai pas envie de dire qu'il faut toujours plus, mais il faut aller chercher plus loin. Plus d'amplitude, plus de performance.
Et aller chercher plus loin,
ça, plus fort.
Ça peut être aller chercher plus, mais ça peut être aussi aller chercher mieux.
Oui, mieux. Ça peut être totalement ça. Ouais. Enfin bon.
On peut rentrer du coup dans le point suivant.
Planification. Au niveau planification, ce que je voulais dire, c'est que tout ce qu'on va dire ici, c'est comme les anciens podcasts qui étaient un peu plus pratiques, mais c'est encore une fois contexte dépendant. On te donne des pistes pour que toi, tu aies des idées un peu plus claires, ajuste par rapport à ton contexte à toi, par rapport à tes échéances.
Ouais.
Enfin bref, ce que je voulais savoir, c'était dans ton sport à toi, enfin, dans le sport que tu pratiques actuellement, est-ce que déjà tu fais des compétitions ?
Attends, moi je pense que déjà, est-ce que toi t'es compétiteur ?
Moi je suis compétiteur dans l'âme.
Ok.
C'est-à-dire que même si c'est pas une compétition, on va dire c'est un concours de beat. Mec, je vais à mon entraînement, Le gars, je sais qu'il est plus fort que moi, mais je vais me dire qu'il faut que j'essaye d'être comme lui.
De toute façon, dans les salles, il y a trop ce truc-là. Il ce truc de comparaison. Mais,
j'arrive à me raisonner, à me dire oui, lui, il est beaucoup plus fort que toi.
Ouais, mais, ça t'empêche pas de.
Mais ça me motive en fait.
Voilà, c'est là pour moi, je pense que c'est une comparaison bienveillante parce que du coup, tu es exigeant et tu te dis putain, je veux faire ce qu'il est en train de faire.
Exactement.
Alors après, si des fois tu veux faire ce qu'il est en train de faire alors que tu n'as clairement pas le niveau, là c'est un extrême et du coup, c'est pas bienveillant. Par contre, ce qui serait bienveillant, c'est de se dire ok, je vais m'entraîner intelligemment pour que je puisse avoir ce niveau.
Ouais.
Mais
du coup, oui, je suis compétitif.
Actuellement, tu fais quoi comme compétition? Alors, c'est quoi ta dernière compète?
Ma dernière
compétition. Voilà, ça part compétition et il fait pas de compétition.
Ah, si, mais c'est juste que justement, et moi j'ai une vision assez particulière des compétitions. Ma dernière compète, elle remonte à. Ma vraie compète, elle remonte à juillet, le 9 juillet l'année dernière.
Donc 2023.
9 juillet 2023.
Ok, donc c'était longtemps.
Exactement, c'était il y a pas si longtemps.
Ouais.
Mais, j'ai fait en off une compétition pour moi-même. J'ai fait monter, descendre une montagne le plus vite possible.
Ouais, ok. Ouais, bah c'est son délire, voilà, laissez-le monter, descendre, c'est tout.
Enfin bref, donc j'ai voulu faire cette compétition pour moi-même. J'ai juste mis un point de départ, un point d'arrivée. C'était mes standards à moi, mon exigence à moi, mon mental à moi. J'étais solo, il n'y avait personne, j'avais pas de dossard, j'ai rien payé. Okay, j'ai dit, je fais cette montagne le plus vite possible et je me suis entraîné pour. Malheureusement... Je l'ai fait en août, fin août, début septembre. Et du coup, les 3 mois d'entraînement, bah, le jour où je voulais le refaire, il neigeait. Du coup, bah, j'ai pas pu le faire parce que du coup, évidemment...
En août, il neigeait ?
Non, mais j'ai fait la compète. Enfin, j'ai fait le testing. On va appeler ça un testing, même si c'est pour moi une compétition que je referai bientôt. Je l'ai fait en août.
Ouais.
Et du coup, j'ai fait 3 mois de training pour ça. Du coup, ça m'emmenait en octobre, novembre. Et c'était le jour où je devais le refaire. C'était le jour où il y a eu la première chute de neige.
Donc le jour de la compétition. Ah non, le jour où tu t'es retesté.
Ouais, où je voulais me retester.
Ah, okay.
Donc du coup, bah, je ne l'ai pas fait parce que vu que c'est des pentes assez raides, c'est pas du tout... c'est pas du tout...
c'est pas du tout la même course, en
voilà,
fait.
Voilà, c'est pas du tout la même norme et j'aurais mis beaucoup plus de temps alors que je me sentais beaucoup plus fort. Enfin bref. Donc ma réelle compétition inscrite, elle remonte à... c'est pas grave, il y aura un tracteur. Hein. Elle remonte à juillet... Ma compétition principale, elle remonte à juillet. Ma compétition pour moi, elle remonte à août-septembre. Et ma compétition secondaire que j'ai fait avec un ami, c'était un relais, elle remonte à fin septembre.
Ok. Et voilà. Et tout ça, c'était
du trail.
C'était du trail.
Que du trail. Donc okay. Voilà. Et s'il faut que je sois un peu philosophique, tu vois, en ce moment, j'ai une compétition envers moi-même, c'est réussir une traction à un bras. Donc ouais. Voilà, c'est une compétition. Pour moi, c'est une compétition.
Ah,
j'ai pas d'échéance, j'ai pas de date précise, mais c'est une compétition envers moi-même. Et seconde compétition, donc là, j'ai planifié mes compétitions pour l'année d'après. On va attendre que le tracteur y passe parce que sinon.
Voilà, ça va être les 10 secondes les plus longues de votre vie.
Ok, c'est bon, on peut y retourner. Donc, pour les compétitions à venir, sauf si tu veux toi exposer tes compétitions avant.
Vas-y, j'y vais après.
Je fais mes compétitions. Ok, donc sur mes compétitions à venir, pour le moment, c'est là où je disais que je suis un peu particulier sur ma planification de compétition. C'est que pour moi, on devrait avoir une seule, sauf les sportifs de haut niveau, ils sont une catégorie à part. On devrait avoir, nous, une seule compétition par année qui est la compétition principale. Là, il devrait y avoir... Enfin, en tout cas, dans mon sport, le trail, j'estime que tu devrais avoir une seule compétition pour laquelle tu te prépares à bloc pour celle-ci. Tout le reste, c'est secondaire et c'est pour apprendre se mettre en condition de compétition. Mais ça devrait être secondaire. Voilà, donc les compétitions qui arrivent, je ne sais pas si on entend encore le tracteur, enfin bref. Les compétitions qui arrivent, c'est fin août à la MCC, c'est une des courses de la finale UTMB. Voilà.
Okay.
Et c'est un 40 km et c'est la compétition pour laquelle je me prépare cette année, 26 août 2024.
Voilà.
Et je sais qu'en amont, j'aurai 3 courses préparatives et je sais qu'après, j'aurai une course en off en moi perso. Voilà. Donc en gros, j'ai 5 compétitions dans l'année.
Je pense qu'il y a certains sports où tu peux pas te dire j'ai qu'une échéance.
Ah, mais c'est impossible de me dire ça. C'est ce que je dis, c'est dans mon sport.
En tout cas, c'est sûr qu'il y a des hiérarchies des compétitions. Mais il y a certaines, comment dire, il y a certaines, certaines disciplines où les compétitions s'organisent de sorte à ce qu'il y a, y a quand même tout un, toute une étape de, de qualification qui fait qu'il y a quand même toujours des enjeux. Mais normalement, la dernière est la plus difficile.
Bah en fait, là, il faut qu'on fasse une aparté là-dessus. Je n'avais pas du tout noté dans les notes, mais je pense qu'il faut qu'on on va faire trois catégories. Sport individuel, sport avec un circuit, un peu football, handball, il y a un circuit tout au long de l'année.
Ouais, il y a même plusieurs championnats en même temps.
Il y a plusieurs championnats, voilà. Et on peut faire aussi la dernière catégorie, c'est les phases qualificatives, mais qui sont différées dans le temps. Donc c'est des étapes.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire un peu comme une compétition, à proprement parler, genre qualification, phase de poule, etc. Ouais, ouais, etc. Ouais. Les championnats et les sports perso. Donc voilà. Donc, mon exemple que je disais de planifier une seule compétition vraiment très 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 importante et toutes les autres c'est secondaire. Je parlais plus dans les sports perso.
Ouais, mais c'est surtout c'est un sport perso ou enfin individuel où il n'y a pas besoin de qualification.
Voilà, où il n'y a c'est pas ça, besoin c'est de ça, qualification. Là, que tu veux dire. C'est ça. Après, on peut prendre par exemple les sports un peu plus collectifs ou les sports même individuels mais qui ont une sorte de championnat.
Ouais, donc ça veut dire que c'est des étapes et le but, c'est qu'à la fin, tu aies le plus gros score
possible.
Voilà,
c'est des étapes. Aucune étape n'influe l'autre étape, on va dire. C'est que non, un résultat final.
Chaque étape influence le résultat, le final. Résultat final, c'est
donc,
ça.
Donc voilà, donc ça, là-dessus, je pense que, du coup, vu que par exemple, si on prend l'exemple du football, qui ont des matchs tous les week-ends quasiment,
ouais.
Je pense qu'il faut savoir, et ça, c'est le rôle un peu du manager, mais... remodeler l'équipe en fonction de la période parce que tu auras
et de l'enjeu
force,
de la compétition
voilà
ouais.
Et de l'enjeu du match donc voilà ah, ça c'est sûr. Un peu plus au niveau de semaine en semaine parce qu'en fait ils se doivent même s'il y a des enjeux qui sont moins importants sur certains matchs ils se doivent d'être compétitifs chaque week-end
ouais.
C'est une obligation t'as pas le droit de te dire oh ce week-end allez on laisse passer le match on perd et puis tranquille tu vois ce que je veux dire
bah alors tu vois le foot c'est quand même particulier parce qu'ils sont sur genre en prenant les équipes de haut niveau ils sont quand même sur plein de championnats différents parce que t'as le championnat national
ouais.
T'as il y a tellement de championnats maintenant en foot t'as le championnat européen t'as la Ligue des champions
bah c'est
t'as...
ça le championnat européen
ouais mais il y a un autre
ah oui maintenant ils ont fait
il y a un autre enfin tu vois il y a plein il y a plein de trucs différents parce que la Champions League au final c'est enfin en dessous c'est ça c'est l'Europa League c'est ça
ouais et oui, puis mais et puis que encore tu peux en dessous les deux. Tu peux pas faire les deux.
Oui, bah oui, tu peux. Mais le haut, c'est la Champions League.
Oui.
Voilà. Mais tu as encore. Enfin, bref, en vrai, il y a quand même plusieurs championnats en même temps. Rajoute à ça une Coupe du Monde, un truc comme ça, où en parallèle, tu dois t'entraîner pour l'équipe de France, enfin, pour l'équipe nationale, pardon, et de l'autre côté, avec ton club. Bref, au final, tu te retrouves sur trois championnats en même temps. Et du coup, c'est le bordel. Mais du coup, j'ai dit beaucoup, du coup, il faut. Prioriser les compétitions voilà. À l'échelle ben, d'une équipe, c'était dans une équipe, mais aussi à l'échelle d'un sportif.
Oui, ben là, c'est ce que j'allais dire. Tout ce qu'on vient de dire pour le football, ça fonctionne pour les sports
pour le sport
de
quoi,
championnat,
en fait.
Mais individuels aussi.
Ouais, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que tu prends, bah, prends un joueur qui est en sélection, qui est en sélection nationale.
Oh, okay, j'ai compris.
C'est que, ok, peut-être que cette année, il y a la Champions League. Ouais, mais moi, les gars, je joue en équipe nationale. Moi, mon titre, il est plutôt en Coupe du Monde qu'en Champions League, tu vois. Bon, bref, j'aime pas parler du foot, j'aime pas le foot. Non, c'est pareil, c'est pas que j'aime pas le foot.
Non, mais enfin bon, vous avez compris, prioriser. Pour moi, tu peux pas mettre toutes au même niveau.
Non, c'est
impossible. Tu es obligé de, dans ta saison, planifier des moments où tu auras des pics de forme, des moments où tu viendras faire ta compétition, mais tu sais que tu ne seras pas forcément le plus performant. Donc voilà. Et après, la dernière catégorie, bah, c'est les étapes qui influent les unes aux autres.
Mm.
Exemple du crossfit, tu passes pas une étape, bah, mec,
bah, c'est fini.
C'est fini pour toi. Quoi. Alors évidemment, tu as d'autres compétitions autres que pour aller au championnat du monde. Mais le Saint Graal, c'est les CrossFit Games. Et du coup, tu te dois bah, de faire des micro-planifications, en fait.
Ouais.
Tu te dois d'être prêt pour la première étape, même si en réalité, pour les professionnels, c'est très simple.
Oui.
Puis tu te dois d'être prêt à la deuxième étape, puis à la troisième, et enfin à la quatrième.
Aux Games.
Voilà. Par exemple, les sportifs de haut niveau, pour ceux qui connaissent le CrossFit, on va pas développer là-dessus, mais Open et quart de finale, ils sont absolument pas à leur pic de forme. ils sont carrément sous fatigue. Non, parce qu'ils savent.
Ils font encore que de la zone 2.
Mathieu Fraser.
Voilà,
Mathieu Fraser.
Voilà ce que j'allais dire.
Mec, il y a une année, il a gagné les Open, donc la première phase des qualifications.
Et après, il a dit, ouais, je ne serai pas du tout à mon pic de forme.
Je ne comprends pas comment j'ai fait ça.
Je prévois pas du tout d'être à mon pic de forme, d'être au max. Et en fait, c'est les meilleurs perfs qu'il a fait, genre.
Voilà. Bref.
En faisant.
Mais il a fait numéro 1 mondial.
En faisant un entraînement qui ne le préparait pas à être à son meilleur.
À être numéro 1.
Bref, voilà.
Donc, bref. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé dans les phases suivantes. Évidemment, il a été champion du monde et 58. Enfin, bon. Voilà Fraser, pour ça. Du coup, on a parlé des compétitions. Juste, parle vite fait de toi. Essaye de faire rapide pour qu'on passe à la suite sur toi. Est-ce que tu es compétiteur ?
Vas-y, pourquoi c'est moi qui dois faire rapide et pas toi ?
Bah, parce qu'on a un peu étalé et on a encore pas mal d'autres sujets à traiter. Est-ce que tu es compétiteur ?
Ouais,
et quand remontent tes compétitions ?
Bah, actuellement, je suis dans une période de remise en question. En gros, j'ai fait de la slackline à haut niveau pendant 8 ans. J'ai été 2 fois champion de France. Et du coup, ma dernière compétition, c'était juin 2023. Donc, c'était la dernière étape du championnat de France.
Oh, le mec !
et depuis, en fait, j'ai pas très bien vécu ma saison de compétition. Même si j'ai gagné toutes mes compétitions, j'étais quand même pas du tout satisfait de moi mentalement. J'étais un peu bancal.
Bankable, tu veux dire ?
Non, bankable. Donc, bref, j'étais vraiment pas satisfait. Et puis après aussi, j'avais fait 3 ans sans compétition avec le Covid, avec les blessures. Bref, et pourtant, j'ai jamais été aussi solide, tu vois, et confiant en mon corps que.
C'est ce que tu m'avais dit. Ouais.
Qu'après les blessures, mais en compétition et même à l'entraînement en slackline, je prenais aucun plaisir. Et en fait, j'étais même plutôt bon, j'espère que c'est bientôt fini. Et donc, tout mon championnat, ça a été ça en 2023. Et il n'y a qu'à la dernière étape où il y avait beaucoup plus de challenges et au final, pas vraiment plus d'enjeux parce que, au vu de mes étapes précédentes, bah, il y avait peu de chances que je ne sois pas premier à la fin du championnat. Mais être premier en terminant cinquième de la dernière étape, tu vois, ça ne le faisait pas.
Ouais.
Et il y avait quand même un gros niveau. Et puis, j'ai fait le strict minimum en termes de score pendant toute la compétition. Et puis, à la fin, je vois que je jouais mon podium et que là, j'étais contre quelqu'un de solide, tu vois. Et il a vraiment fallu que je me mette ce coup de pied au cul pour vraiment faire le meilleur que je peux. Et je pense que j'aurais pu faire mieux, mais j'étais quand même content de la perf que j'ai faite. Et là, j'ai retrouvé du coup un sentiment de plaisir, tu vois, dans la compétition. Mais la vérité, c'est que aujourd'hui, je suis dans une autre compétition, on va dire, celle de développer mon activité professionnelle.
Ouais.
Parce qu'il ne faut pas se mentir,
ça prend du temps.
On l'a dit tout à l'heure, c'est quand même très compétitif.
Bah, oui.
C'est un milieu qui est très compétitif. La vie est compétitive. Mais j'avoue que j'arrive à un stade où il me manque ce côté échéance sportive. Et je suis en train de me demander si je ne me remettrai pas à la compétition dans un sport. Et justement, là.
En slackline. En 2024, pas de slackline en compétition.
En tout cas, non, pas de compétition parce que ça démarre là, bientôt, je pense, février, mars, et que j'ai pas mis les pieds sur une slackline depuis mi-septembre. Mais donc, du coup, ouais, je pense m'inscrire aux Open de CrossFit pour tester, ok, pour l'expérience. Pour l'expérience. Et puis j'ai très envie de reprendre un sport co que j'ai fait pendant 3 ans.
Le volet.
Et j'aimerais bien jouer avec une équipe assez compétitive. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas de niveau dans le volet. On va dire. Et le truc, c'est que si je m'y mets.
En gros, t'es exigeant.
Je vais vouloir jouer sérieusement. Et je sais que si je joue sérieusement, j'ai du potentiel. Tu vois, je ne dis pas du tout ça avec arrogance.
Ouais, ouais, ouais.
Mais je vais m'investir pour.
Oui.
Et que si derrière, c'est ça aussi le problème des sports co, hein, c'est que si tu es avec des gens qui ne s'investissent pas autant, et ben, ça fait chier parce que ça pénalise toute l'équipe. Et du coup, moi, ça me frustre derrière et blablabla.
Ok. Bon. Alors, mais du coup, mes questions, elles n'ont pas trop de sens. Mais j'y répondrai moi-même parce qu'elles ont du sens pour moi. J'allais te demander, est-ce que du coup, tu planifies tes compétitions à l'avance ? Mais vu que tu as beaucoup fait de compétitions de slackline, alors à moins que pour les Open, tu planifies.
Mais non,
Voilà.
Je vais pas mytho pour les Open, je vais rien planifier du tout.
Ouais,
parce que je veux tester.
Tu t'inscris.
Parce que je fais du CrossFit du coup depuis un an maintenant et que voilà, je vais tester et ensuite on verra, tu vois.
OK. Là donc voilà.
Pour la slackline, je peux parler.
Tu planifiais ?
De toute façon, les compétitions, je sais quand elles tombaient. C'est tous les ans pareil. Le championnat, en gros, ça démarre là, en gros, courant février. Et il y a trois compétitions jusqu'à mai-juin. Et puis après, il y a la possibilité d'aller au championnat du monde fin juin, début juillet, tu vois. C'est ce que j'ai fait l'année dernière. Championnat du monde, j'ai fait tellement de la merde. mais en tout cas, c'était toujours comme ça. Et ce qui se passe sur la période, on va dire, de la rentrée, donc genre septembre jusqu'à la première compétition, bah c'est, on va dire, faire pas mal de volume.
Oui, donc il y a quand même un esprit de planification.
Et où travailler, tu vois, les figures un peu compliquées, pour que le moment où... Il n'y a pas de trêve hivernale, mais la vérité, c'est que l'hiver, on s'entraîne quand même moins, vu que c'est toujours ghetto, on s'entraîne dehors. Bah, allez vous entraîner quand il fait moins 4, je vous jure que c'est fun. C'est ironique.
Les podcasts aussi, c'est fun. C'est moins 4.
sous la neige, là. On espère que vous l'avez vu. Et ben, du coup, c'est vrai que quand il fait froid, tu t'engages quand même moins dans ce que tu fais, parce qu'il y a quand même une part de sport extrême dans ce que je fais, dans la slackline. Ouais. Et du coup, faire du volume sur des choses simples, malgré les conditions météo difficiles, essayer de faire le minimum pour avoir ces grosses figures, ces figures un peu techniques ou ces figures qu'on appréhende pour qu'après on puisse quand même les faire en compétition. Et après en compétition, bah, l'idée c'est de durer et de ne pas se blesser parce qu'au final c'est ça le plus gros risque, je dirais. Donc après, je vais dire c'est après les compétitions au final que je vais prendre le plus de risques. C'est peut-être con, mais... je sais que physiquement, je me serais économisé sur les compétitions. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas eu de fatigue parce qu'il y a eu beaucoup de stress, donc beaucoup de fatigue générée par ça, par l'attention que ça demande. Mais après, il y a aussi le fait que vu que c'est fin de l'été, bah, c'est les bonnes conditions pour que je puisse m'entraîner dans les meilleures conditions et que je puisse tester de nouvelles choses, tu vois.
Ouais, ok.
Ça voilà ma planif.
Alors, la slackline aussi, c'est un peu particulier. C'est pas comme...
C'est un truc marginal, hein. Voilà, faut pas se mytho.
Donc, voilà. Moi, j'avais juste noté une question, mais du coup, je vais juste y répondre comme ça. C'est combien de compétitions à l'année ? Bah, j'ai envie de te dire déjà...
4.
Ouais.
Là, j'ai répondu pour moi.
Non, mais 4, ouais, mais si on devrait donner un chiffre, pas universel, mais un chiffre qui guide bien, pour moi, déjà, des personnes qui font des compétitions tous les week-ends, c'est beaucoup trop. Enfin, encore une fois, à remettre dans son contexte, tu es footballeur, c'est pas beaucoup trop, c'est normal. Mais si tu tapes un trail à bloc tous les week-ends, c'est beaucoup trop, je te le dis. Arrête, fais pas ça.
Même une fois par mois, ça fait beaucoup. Hein.
Même une fois par mois ou tous les deux mois, moi je trouve que ça fait beaucoup. Tout simplement parce que si tu planifies correctement tes compétitions et que tu planifies correctement tes entraînements pour tes compétitions, déjà la semaine avant ta compétition, c'est pas une semaine de développement. La semaine compétition, c'est pas une semaine de développement non plus.
Non.
Ok ? Donc,
c'est qui déjà qui avait fait ce calcul là où en gros...
Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais le faire en présentiel. Moi, je le fais à chaque fois.
Donc, 8 semaines.
Déjà, là, si tu fais 4 compétitions dans l'année, tu as 8 semaines où tu ne développes rien. Tu ne t'entraînes pas, tu ne développes rien.
Sur 52 semaines, okay, ça fait beaucoup. Hein.
Voilà. Donc, imagine-toi si juste tu fais 10 compétitions dans l'année.
Ouais, bah ouais.
Voilà.
En fait, tu développes jamais.
Voilà. Tu as quasiment 40% de ton année où tu ne développes pas.
Voilà.
D'où l'importance de réussir à se raisonner. Et si ton défaut à toi, c'est de faire trop de compétitions et que tu t'en rends pas forcément compte, essaye d'écouter les gens qui te disent « Fais attention, arrête les compétitions, calme le jeu, fais-en moins. » Enfin bref, ça, essaye peut-être de les écouter. Moi, je pense que tu devrais, une année, un an, essayer de planifier beaucoup moins de compétitions, mais les planifier beaucoup plus intelligemment. Vraiment mettre des niveaux d'importance à tes compétitions. Celle-ci, c'est la plus importante. Celle-ci, je sais que c'est une compétition de préparation. Celle-ci, je peux la faire passer en secondaire parce que j'aimerais bien donner quelque chose, avoir un bon résultat. Et puis voilà, tu le fais progressivement. Essayer de mettre une hiérarchie à l'importance de la compétition, je pense que c'était important. Mais si tu prends ce concept qu'on vient d'évoquer, développement et non-développement du coup, fais le calcul par toi-même, tu rajoutes 2 semaines à chaque compétition
une avant,
où tu
une
ne
après.
Développes pas. Et j'ai même envie de te dire, sur les grosses compétitions, après, ce n'est pas une seule semaine où tu ne développes pas, c'est 2-3 semaines, voire un mois où tu ne développes rien.
Ça dépend de la compétition, le sport, ça dépend de
l'impact que ça a eu sur toi. Mais
parce qu'il n'y a pas que le physique, en fait. Il n'y a pas que le physique.
Pas du tout que le physique.
Ça prend des ressources en termes de stress, en termes émotionnels, attentionnels. Et en fait, je pense que la fausse idée que se font les gens de l'entraînement et du sport en général, c'est que dès que tu t'entraînes, c'est pour développer. Ouais. Et ce n'est pas vrai. Des fois, tu t'entraînes juste pour maintenir. Et ça, c'est vrai que tu sois un compétiteur ou pas, j'ai envie de dire. Parce que si tu es un compétiteur, ok, j'ai pas envie de dire que ta vie entière tourne autour du sport, mais en tout cas, tu t'investis beaucoup dans le sport. Si tu es pro, bon, bah là, la question se pose plus. Mais même si tu es juste sportif amateur, au sens pas compétiteur, il y a des périodes où, au taf, tu vas avoir besoin d'être plus investi dans ton taf. Donc, peut-être que ces périodes-là, bah, tu vas être moins dans le développement et plus dans la maintenance. Il y a des périodes, si je prends par exemple un retraité, tu vois, où les périodes de Noël, on est quand même beaucoup en famille, il y a beaucoup de choses à organiser. Peut-être que là, je ne vais pas faire du développement, je vais peut-être faire de la maintenance, tu vois. Ouais, parce qu'il y a des retraités qui s'entraînent, hein, faut pas croire.
Oui, et au-delà de juste faire de la maintenance ou quoi que ce soit, de toute façon, tu ne peux pas tout développer en même temps. Donc, si tu développes une, deux, voire trois qualités physiques, bah, toutes les autres, soit tu les maintiens, soit tu ne t'entraînes pas et tu les perds.
Ouais, c'est ça.
Donc, tu es obligé de passer par des phases de maintenance.
Exactement, c'est très bien dit.
On a bien parlé de la planification. La dernière chose que je voulais dire, c'est l'importance et le pourquoi d'avoir des compétitions préparatoires à l'échéance, à l'objectif principal. Quel serait l'intérêt ? Est-ce que tu penses que tu peux faire toute une année en faisant que de l'entraînement, puis tu te pointes à ta compétition la plus importante et tu tapes ta meilleure perf ? Ou est-ce que tu vois un intérêt à alterner des phases de développement validées en compétition secondaire préparatoire ? Tu refais ça une, deux fois, puis après tu développes à balle et là tu arrives à ta compétition la plus importante. Quel serait l'intérêt des courses ou compétitions préparatoires ?
Moi, ce qui se passe, c'était quand même que chaque compétition était importante. Voilà. Étant donné que c'était un championnat, il fallait que je fasse le mieux pour qu'à la fin j'ai le score le plus élevé
donc
possible.
Donc là, encore une fois, ça dépend un peu de ton contexte.
Donc dans tous les cas, chaque compétition était importante.
Ok. Il n'y en a jamais une où tu t'es dit. Celle-ci, je sais que je vais y aller, mais je ne donnerai pas réellement mon 100% parce que c'est pour tester certaines choses.
Typiquement, l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que... Ouais, posez pas de questions, c'est un peu bizarre la slackline. Mais en gros, j'avais fait les deux premières étapes du championnat de France, puis ensuite, il y avait les championnats du monde, et ensuite, la dernière étape du championnat de France. Ok ?
Oui.
Parce que chaque compétition est un open, vu que c'est une discipline qui est trop petite, donc en gros, n'importe qui peut se pointer à la compétition. Mais... et puis si demain tu as envie d'organiser une compétition dans ta campagne perdue et l'appeler championnat du monde, tu peux. Après, est-ce qu'elle sera légitime de s'appeler championnat du monde ? C'est sûr que non. Mais en tout cas, du coup, moi, je suis allé au championnat du monde et je savais très bien que c'était plus une compétition de test. Et là, vu que mentalement, en plus de ça, j'étais pas bien, c'était même pas une compétition de test physique. De ce que j'étais capable techniquement, tout ça, c'était plus un challenge mental. Okay. Parce que j'avais, je ne veux pas vous mentir, j'avais aucune envie d'y aller. Aucune envie d'y aller. Et tous mes amis de la slackline à l'international m'ont dit tu dois y aller, tu vas venir, ça va être cool. La vérité, c'est que ça m'a brisé. Je suis revenu, j'étais brisé. Et une semaine après, j'avais la dernière étape du championnat de France. Et je savais qu'il y allait avoir du gros niveau.
Et une si semaine après. Tu étais champion de France, soit tu l'étais pas.
Je pense que c'était sûr que je le sois, mais mais le problème c'est que je t'ai dit, je voulais pas terminer en faisant cinquième, tu vois. Je voulais faire un podium, obligé. C'est en vrai full ego.
Ouais, mais
full ego.
Ouais,
et c'est
de la bienveillance.
Et ça allait être la compétition.
C'est de l'exigence qui est de la bienveillance.
Ouais, c'est vrai. Et ça allait être la compétition où il allait avoir le plus gros niveau. J'avais une semaine, même pas. J'avais 5 jours. Pour me remettre de la grosse tarte dans la gueule que je venais de prendre au championnat du monde. Parce que j'étais déjà pas bien en y allant. Je suis reparti, j'étais brisé. 5 jours pour me remettre. Et au final, ça m'a pris toute la compétition jusqu'à mon dernier passage. Où là, j'ai réussi à me mettre un énorme coup de pied au cul pour vraiment performer. Et je pense que j'étais pas à mon 100%. Mais j'ai quand même réussi à exprimer un bon 80-85%. malgré le mental un peu bancal, comme je disais tout à l'heure. C'était quoi la question de base? Tu vois, je me suis trop égaré.
Non, la question de base, c'était quel est l'intérêt des courses, compétitions de préparation.
Ah.
En gros, les objectifs ouais, secondaires. Ouais, c'était
ça. Et donc,
c'est ce que tu as dit. Tu as dit que tu avais eu deux championnats de France, une championnat du monde, un championnat de France. Mais lesquels est prioritaire et lesquels est secondaire?
Ouais, du coup, j'ai jamais vraiment de compétition préparatoire vu que c'est un championnat et que toutes les étapes sont importantes. Mais dans tous les cas, chaque compétition reste un test et je teste des choses et ça marche ou ça marche pas, tu vois.
Ouais.
Et le simple fait de gagner une compétition ne veut pas forcément dire que ça marche. Parce que j'ai fait des choses en compétition, j'ai gagné et pour autant ce que j'ai fait ne marchait pas. Parce que je savais que ce n'était pas efficace, je savais que ce n'est pas, c'est pas ça qu'elle allait me rapporter le plus de points ou ça me fatiguait trop, donc ça ne marche pas bien, il faut que je fasse autre chose, peut-être plus simple, pour qu'au final, plus durer dans ma compétition, bref, plein de choses comme ça.
Faire des choix.
Exactement. Tester pour faire des choix, on en a parlé dans l'épisode précédent.
Mmh. Ok, bon.
Toi du coup,
bah,
tu fais
Moi, je fais en compétition, je fais que du trail, donc ça sera spécifique au trail. Tu peux peut-être retrouver des choses pour ton contexte à toi, mais en gros, comme je l'ai dit, pour moi, il n'y a qu'une seule compétition dans l'année qui est importante. Toutes les autres, c'est du secondaire. Pourquoi est-ce important? Moi, ça me paraît important de faire des courses préparatoires pour tester, pour enlever le paramètre inconnu. Parce que dans le trail, tu dois tester ton équipement, chaussures, vêtements, parce que tu peux avoir des frottements, ton alimentation, ta condition physique, ton entraînement, est-ce qu'il a fonctionné. Donc pour moi, c'est chaque compétition qui est secondaire a un objectif.
Tester ta stratégie.
Voilà, il faut tester une stratégie. Si tu arrives un jour en compétition et que tu n'as pas testé tout ce que je viens de dire avant, pour moi, tu fais une erreur. Et un jour, je vais te donner un exemple. J'ai une athlète qui faisait un semi-marathon, je pense qu'elle va se reconnaître. Et elle me dit, j'ai acheté un nouveau short, je vais le mettre pour la compète, ça va être trop bien. Je lui ai dit, Chloé, moi je serais toi. Merde, j'ai dit son prénom. Je suis con. Je lui ai dit, moi je serais toi, tu devrais pas mettre ce short à la compète parce que tu l'as pas testé et c'est possible que tu aies des irritations et que ça te fasse chier. Mais non, Gianni, je te dis, ça va le faire et tout.
C'est ce qui s'est passé.
Bam, compétition. Chloé qui fait le semi-marathon, qui revient me voir après le semi. Ah bah ouais, t'avais raison, hein, j'avais des frottements. Bah ouais, mais parce qu'on ne l'avait pas testé avant à l'entraînement.
C'est du détail. Hein.
À l'entraînement.
C'est du détail, et tester un short.
C'est
quand
du
même,
détail de tester un short. C'est du détail. Mais ça a l'importance. Parce que si tu t'inscris à ta compète, tu mets toute ton énergie dans l'entraînement, tu mets toute ton énergie dans la planification, dans la stratégie, dans l'alimentation, dans tout, pour que tu abandonnes parce que tu as une putain d'irritation entre les cuisses. Je peux t'assurer que tu allais mort. Je peux t'assurer que pour cette putain d'irritation sur les cuisses, tu t'es dit pourquoi j'ai pas mis un putain de short que j'avais déjà mis avant, tu vois.
On ressent la haine.
Ouais, c'est non, vrai. Mais je peux te le dire parce que moi, je l'ai déjà expérimenté sur moi-même. Et c'est des choses qu'il faut essayer d'enlever un maximum de paramètres. Donc pour moi, ça fait sens. C'est pas une obligation, encore une fois. Mais parce que tout ce que je te dis là, de mettre en place en compétition préparatoire, au final, pour moi, tu peux très bien le mettre en place dans tes entraînements.
Ouais.
Tu vois, tu peux très bien tester ton alimentation en entraînement. Tu peux très bien tester ton short en entraînement.
Mais c'est ce qu'on disait au début. C'est que, est-ce que c'est les vraies conditions de compétition, tant
mais
que
c'est pas
une compétition.
Les vraies conditions. Et est-ce que tu as cette comparaison avec l'autre personne?
Tu vois, quelque part, si de temps en temps, tu vois, je prends le foot parce qu'au final, ça parle à tout le monde, tu vois.
Ouais.
Si des fois, l'équipe de France, elle fait des matchs amicaux,
oui.
c'est pas pour rien.
Ah, oui.
Alors que quand c'est l'équipe de France contre l'Azerbaïdjan, bon bah. Normalement, il n'y a pas trop de surprises. Et ben, quand bien même ils le font, bah parce qu'ils testent. Ils testent des stratégies, ils testent. Et dans stratégie, il y a, tu vois,
tout
ce que tu viens de dire, l'alimentation, la disposition, l'équipement.
Mais eux, ils ont la stratégie à tester.
Donc voilà. Donc en fonction de ton sport, il y a plein de. Enfin, il y a des paramètres à tester. Et voilà.
Donc voilà. Pour moi. Fais des phases de compétition. Tout ce que je viens de te dire là sur la planification de tes compétitions, la planification de tes entraînements pour les compétitions, le testing en entraînement ou en compétition préparatoire, donc des objectifs secondaires, pour moi, ça, tu dois être accompagné par un préparateur physique, hein, ou par, du moins par quelqu'un qui te programme tes entraînements. Ou alors tu le fais par toi-même, mais il faut que tu y réfléchisses vraiment correctement. Il ne faut pas le prendre à la légère.
Et puis, tu peux aussi faire le taf toi-même et ensuite demander un avis d'un pro, tu vois.
Voilà, parce que c'est ce dont j'ai noté la suite, c'est l'après-compétition. Pour moi, si tu fais une compétition, qu'elle soit préparatoire, pré-préparatoire, que ce soit ton objectif secondaire ou pas, pour moi, il faut que tu en tires des conclusions. Voilà, il faut que tu en tires des leçons. Il faut que tu te dises, ok, dans cette compétition, qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'est-ce que j'ai bien fait ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Si juste tu fais ta compétition et je passe à la suite, ça c'est fait. Pour moi, ta compétition, c'est un entraînement comme un autre. Elle n'a pas servi à grand-chose, tu vois.
Le principe d'une évaluation, c'est quand tu es à l'école, c'est de savoir ce que tu sais et ce que tu ne sais pas.
Bah, c'est d'évaluer ton niveau.
Et donc, si ce que tu ne sais pas, logiquement, bah, tu vas faire en sorte de le savoir. Bon. L'école, c'est un peu chiant, donc c'est pas le meilleur exemple. Mais là,
enfin, bon.
ce qui marche pas, du coup, bah, il faut que tu le revoies pour que ça marche ensuite.
Donc, du coup, l'après-compétition, qu'est-ce que t'apportent les compétitions ? Bah, des pistes. Des pistes de travail, d'expliciter tes points forts aussi. Ça te permet d'expliciter
de
tes points
forts. De faire mieux, et puis on pourrait même être un peu plus philosophique, c'est qu'il y a des choses que tu tires de la compétition, des valeurs que tu peux extrapoler.
À ta vie de tous les jours.
À ta vie de tous les jours. Fin du podcast.
Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu peux mettre en place suite à une compétition ? On va faire trois catégories, à court, à moyen et à long terme. Nathan, je te laisse.
À long terme, préparer la suite.
Court terme.
Récupérer.
Ok, donc voilà, tu vois, par exemple, en fait, dès que tu as fait une compétition, tu viens de soulever un sujet très important, récupérer. Ça peut te permettre juste de voir ta récupération. À quel point tu es capable de récupérer ? À quel point tu peux récupérer rapidement ? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour récupérer le plus rapidement ?
Et récupérer, c'est pas... Il rigole parce que je suis en train de me cacher parce que je baillais. C'est pas parce qu'il est ennuyé. Okay. On s'est levé tôt ce matin pour travailler.
Oh putain.
Récupérer, en tout cas, ça veut pas dire rester dans son canapé. Ça veut dire que tu peux continuer à t'entraîner, mais tu vas pas faire du développement. Tu vas faire en fait de la récupération. Donc tu vas moduler les intensités, les volumes de tes entraînements en prépa physique, dans ton contexte d'entraînement, ben pour continuer à pratiquer, mais tu vas pas pratiquer comme quand tu étais à ton pic de forme. Et c'est ça qui est important. Donc, s'entraîner pour développer, s'entraîner pour maintenir. Et puis, ouais, je pense qu'on peut parler de s'entraîner pour récupérer.
Ah ouais, carrément, sans surcharger.
Voilà, c'est
sans
ça.
Sans surcharger.
Mais sans perdre aussi. En fait, c'est ça l'enjeu.
À court terme, quand on entend à court terme, c'est dans les jours, la semaine qui suit. Hein.
Ouais.
À moyen terme, sur le mois, allez, le mois, les 2 mois qui suivent, que mettre en place ? Bah, peut-être tirer des conclusions de tes points forts, points faibles. Et peut-être intégrer tout de suite du travail sur là où tu as été le plus mauvais.
Ouais.
Tu es d'accord avec moi ?
Et commencer à volume, en fonction de ta stratégie et du point bien sûr, mais
ouais.
À commencer avec des volumes et ou intensités relativement faibles, bah, pour mettre ça en place sur du long terme.
Carrément. Et du coup, sur le long terme, c'est juste essayer sur une année de voir ton évolution par rapport à cette compétition. Donc, une compétition, ça sert à tirer des leçons, fais en sorte de prendre note, de voir là où tu as été bon, là où tu as été mauvais, pour que tout de suite derrière, tu retournes au travail, intelligemment, comme on l'a dit, à court terme, le travail, c'est la récupération, voir à quel point tu es capable de récupérer. À moyen terme, mettre des stratégies, des méthodes en place pour évoluer sur tes points faibles ou pousser tes points forts. Et sur du long terme, c'est juste de pousser tout ça au maximum. T'es d'accord ?
Et puis aussi, faire la compétition pour kiffer.
Ouais, putain, tu l'as bien soulevé sur le plaisir. Sur le plaisir.
Il y a un moment,
pas pris du plaisir. Prenez du plaisir, franchement.
Il faut kiffer. Et puis, si ça te fait pas plaisir, il faut remettre les choses en question.
Tu sais que moi, ça, dans le trail, c'est super dur. Genre, moi, j'ai des courses où j'ai trop envie d'y aller, trop plaise. Je me lance sur la course, je suis trop bien. Et puis là, t'as l'aspect mental du trail quand ça fait 6 heures que t'es dans la montagne. Et là, tu te dis... peut-être que je serais mieux chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te dis, merde, pourquoi je me suis inscrit là? Enfin,
ah,
bref.
Ouais, je vois voilà. Tellement.
Et du coup, c'est des fois, il y a des courses que j'ai finies, genre, j'étais pas fier. Et juste la semaine d'après, je me suis dit, si, putain, j'ai trop bien fait de le faire au final.
Ouais, il faut se laisser le temps aussi de digérer la compétition. Hein. Parce que souvent, à chaud, t'as toujours tendance à voir le négatif.
Et tout le temps.
Et du coup,
c'est le pire défaut de l'être
humain. Du coup, tu vois pas le plaisir. Moi, typiquement, je suis dans un sport qui est très visuel. Du coup, je filme tout ce que je fais. Et du coup, je suis dégoûté de ce que j'ai fait. Et puis, a posteriori, je regarde et je me dis, putain, en fait, j'ai quand même fait des choses bien.
Tu parles de la slackline?
Ouais, de la slackline.
Parce que maintenant, t'es un crossfitter quand même. Ah, il a du mal à le dire. Allez, dealer.
Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr.
Mais en vrai, là, actuellement, tu te définis comment? En termes de sportif.
Ah, ciao.
En termes de sportif. En vrai, c'est un exercice pour toi, mais.
Ouais, je sais pas. Je sais pas comment je me définis. J'avoue, j'ai dit que j'étais dans une période de transition.
De toute façon, tout ce que je sais, c'est que tu continues à t'entraîner, que tu développes des qualités physiques qui te serviront toujours.
À fond.
En vrai, là, on pourrait limite dire que t'es un athlète hybride.
J'aime pas ce terme.
Moi non plus, mais.
Je suis un athlète athlétique.
Voilà.
Je suis un athlète athlétique. Voilà ce que je suis.
On a bien fait le tour. Si on peut juste dégrossir pour faire un petit check-up de la compétition. La compétition. À quoi ça sert? C'est une ligne directrice.
Ouais.
Comment tu l'as dit?
C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé.
Voilà.
On te le recommande, en tout cas.
T'as dit un autre truc sur se comparer. Une ligne directrice, c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé.
Se comparer pour s'évaluer.
Se comparer pour s'évaluer. Il y a un serpent derrière nous.
Ouais.
Donc voilà. Ça permet aussi de sortir de son cocon, quand même. Pas être que dans la facilité, se mettre des grosses cartouches. Et se comparer à des personnes qui sont potentiellement plus fortes.
Parce qu'au final, tant que t'es pas en compétition, t'exprimes pas tes vraies capacités, ton vrai potentiel.
Tirer des leçons.
Ouais, tu l'as dit.
Et mettre en place une stratégie pour aller à cette compétition.
Parce que, au final, la compétition, c'est ce que tu retrouves dans ta vie.
Ouais.
Et que dans ta vie, tu te prépares pour,
c'est tous les jours.
Pour un événement.
C'est tous les jours.
Tu tires des leçons de cet événement et tu prépares le prochain événement.
Ouais.
Donc voilà, la compétition, en fait, tu l'extrapoles à tout.
À tout. Et c'est tous les jours. La compétition, c'est tous les jours dans ton sport, dans ta vie, dans ton travail. À différents niveaux, évidemment.
Puis même dans tes relations.
Et même dans tes relations, ouais, en vrai. Peut-être que tu veux choper la meuf de ton pote, tu vois. Ça, c'est un peu méchant.
Tu veux quoi, toi?
Non, mais non.
Et simplement, bah voilà, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ça fait 3 fois que je perds ce que je veux dire. Hein, parce que tu dis quelque chose.
De la merde, parce que je dis de la merde.
Ah, si, c'est bon, je sais. Donc là, en fait, on a survolé le sujet de la compétition. Et on a beaucoup donné notre avis, notre expérience. Et puis même parlé un peu philosophique. Mais si tu as envie qu'on parle de sujets bien précis sur. La compétition
ou sur tes compétitions dans ton sport,
on pourra y répondre. Donc voilà, n'hésite pas à le faire. Par exemple, comment préparer une compétition de trail, tu vois.
Ouais.
J'avoue, c'est plus Gianni que moi qui va te répondre, mais je peux apporter quand même des éléments de réponse et voilà.
Et juste avant de passer de clôturer le podcast, je tiens vraiment à vous dire, Nathan, il est beaucoup dans la préparation physique. Moi, je suis un petit peu dans la préparation physique et beaucoup dans les sports d'endurance. Si vous voulez qu'on traite des sujets bien précis, par exemple, là, tu as dit préparer une compétition en trail. Nathan, il aura toujours son mot à dire. Tu auras toujours quelque chose à dire.
Ça pourrait même être préparer son alimentation pour une course en trail.
Voilà, et ben, ça peut être un objet de podcast. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des sujets bien précis, une question bien précise à laquelle tu aimerais qu'on réponde.
Par exemple, est-ce que le genou peut dépasser les orteils?
Non, mais voilà, c'est des trucs un peu plus précis parce que là, c'est vrai que sur tous les podcasts qu'on a déjà fait, c'est des sujets assez globaux où on essaye de rentrer dans un sujet un peu plus précis puis en ressortir pour rester dans notre sujet global qui est aujourd'hui la compétition. On a quand même traité le moyen, le long terme et le court terme après une compétition. On a traité les sports individuels, les sports où il y a une compétition par étape, les sports où il y a une compétition avec phase qualificative,
toutes les semaines.
Donc voilà, on a traité pas mal de choses, mais limite, la compétition en trail pourrait faire office d'un podcast. La compétition, le championnat, donc la compétition
en slackline,
voilà, non, mais peut faire l'objet d'un podcast. Donc, n'hésitez pas à nous conseiller des podcasts un peu plus précis. Ce sera avec plaisir qu'on les traitera. J'espère que celui-ci vous a plu.
Ouais.
C'était assez cadré. On a essayé de vous donner des tips et de, qui vous permettent de vous retrouver dans votre contexte à vous.
Puis même parler si de nous, parce que c'est pour nous que vous êtes là dans le processus talk.
Évidemment. Les prochains, avec des intervenants. Vraiment, on espère vous proposer des intervenants qui vous hype, en fait. Qui vous disent, oh putain, je vais écouter ce podcast. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Vous savez où vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, les différentes plateformes d'écoute.
5 étoiles, commentaires, brah.
Et n'hésitez pas à échanger avec nous. C'est un plaisir quand vous nous faites des retours sur le podcast. Bonne journée.
Ciao.